nouvelle vague.
Un rendez-vous cinéma
sur le Bouquet Grandvillers.
Bienvenue dans Nouvelle Vague, l'émission du cinéma Grandvillers et au-delà. Dans ce nouveau numéro, on s'est un peu déconfiné pour aller à votre rencontre ou simplement vous écouter. Flora a réalisé un micro-trottoir à distance, ou plutôt un micro-maison, pour vous demander ce qui vous manquait le plus au cinéma. Dans la rubrique Bobines et coquillages, on a rencontré Émilie Maupetit, qui officie à la galerie boutique ICO de Grandville. Et enfin, Mathieu de la médiathèque de Grandville poursuit son café cinéma virtuel avec le film « Je la connaissais bien ». Et puisque le Festival de Cannes devait avoir lieu en ce moment, je vous propose de monter les marches. Bonne émission! Nouvelle vague.
Il nous faudrait un plus gros bateau.
L'étoile de la Grandvillaise.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'étoile de la Grandvillaise, on revisite notre micro-trottoir. On va pas vous en douter devant le cinéma Le Select pour demander aux spectateurs ce qu'ils ont pensé du film qu'ils venaient de voir, mais on demande à nos amis, connaissances, auditeurs, cinéphiles ou non, ce qui leur manque le plus au cinéma à part les films.
Ce qui me manque le plus au cinéma, c'est de sortir de chez moi pour être dans un autre intérieur, mettre un bon moment aussi avant de savoir où je vais me placer dans la salle. Est-ce que je vais mettre au milieu, est-ce que je vais mettre devant, au fond, à gauche, à droite. Supporter aussi la petite annonce Jean Mineur et les publicités locales un peu cheap juste avant le film. Espérer que les bruits de mes voisins et leurs commentaires sur le film vont bientôt s'arrêter. Et puis bien sûr aussi partager le film avec d'autres personnes. Bref, ne pas avoir le contrôle en fait sur le film que je vois, ne pas pouvoir mettre pause sur ce film et ne pas avoir le contrôle aussi sur comment je vois ce film. En bref, me laisser surprendre.
Ce qui me manque le plus au cinéma, c'est le fauteuil, trop confortable.
Alors, ce qui me manque le plus au cinéma, ce sont les fauteuils de cinéma. Vous savez, ces sièges rouges si confortables qui n'égalent à mon sens aucun canapé, clic-clac ou rocking chair à la maison. Ces petits bruits de ressorts fatigués pendant la projection, le couinement du strapontin quand on s'assoit, cette assise rendue moelleuse par les nombreux postérieurs qui s'y sont posés, bah franchement, ça manque. Souvenez-vous, un bon film en version originale, une lumière tamisée, une température de 20 degrés Celsius, pas de voisin sur la rangée de devant pour pouvoir poser délicatement et nonchalamment ses chevilles sur le fauteuil d'en face, la nuque calée sur le haut du dossier, les bras reposés sur les accoudoirs, et c'est parti pour une heure et demie, deux heures de bonheur. Bon, clairement, j'ai hâte de pouvoir retourner au ciné pour m'affaler dans l'un de ces merveilleux fauteuils.
Ce qui me manque le plus au cinéma, c'est pouvoir allonger ses jambes, un peu comme si on était chez nous dans un lit et avoir un petit plaid sur les jambes. Parce que tu es toujours en train de galérer à mettre ton manteau sur tes jambes quand t'as froid.
Ce qui me manque le plus au cinéma, c'est l'ouvreuse qui vend des bonbons avant la séance.
Alors, ce qui me manque le plus au cinéma, je pense, ce serait de m'installer dans les sièges confortables qu'on connaît dans les cinémas, de regarder les bandes-annonces, et une fois le film commencé, me sentir tout seul dans la salle, même si cette salle est pleine, et me sentir reposé en sortant de la salle de cinéma et réfléchir au film que je viens de voir.
Bah, ce qui me manque le plus au cinéma à part les films, c'est sans doute les quelques minutes avant que le film commence, que les lumières s'éteignent, que le silence s'installe et que l'attente des spectateurs dépasse bien souvent ce à quoi ils vont assister. Donc c'est vraiment cette attente-là qui me manque.
Les exploitants de salles de cinéma sont toujours dans l'attente d'une date de réouverture et des conditions de réouverture. Avec le succès des plateformes, ressurgit la crainte que les spectateurs boudent la salle. Mais d'après un sondage réalisé entre le 26 et le 31 mars par Vertigo Research, aller voir un film au cinéma serait la deuxième activité post-confinement la plus plébiscitée par les spectateurs s'étant rendus en salle au cours des 12 derniers mois. Après manger au restaurant, boire un verre dans un café, mais avant pratiquer une activité sportive librement et sortir faire la fête. De quoi rassurer, on l'espère, nos salles de cinéma qui nous manquent. La rubrique Bobines et coquillages propose des entretiens avec des personnalités locales qui ont un lien avec le cinéma. Pour ce numéro, j'ai rencontré, dans le respect des gestes barrières, Émilie Maupetit dans sa galerie boutique ICO.
Bon, ben moi.
Nouvelle vague.
J'ai piqué une tête.
Le cinéma qui fait plouf.
Bobines et coquillages.
Bonjour Émilie.
Bonjour Marilyn.
Est-ce que tu peux commencer par présenter un peu ton parcours, ce qui t'a amené à jeter l'encre à Granville et à monter ICO?
Oui. Alors, donc moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai fait aussi mes études en région parisienne, en banlieue parisienne. Donc, j'ai fait des études de cinéma. Et pendant mes études de cinéma, j'ai aussi travaillé à mi-temps en médiathèque. Et il se trouve que, en fait, au bout de quelques années, à la fin de mes études de cinéma, j'ai décidé de travailler à temps plein en médiathèque. C'était un travail donc que j'ai découvert et qui m'a beaucoup intéressée sur différents aspects, notamment tout l'aspect contact avec le public, les échanges autour de la culture, le fait de pouvoir partager mes connaissances sur le cinéma. Voilà, donc j'ai fait ce travail pendant 6 années. Et au bout de 6 ans, il se trouvait que avec mon compagnon, on avait envie de changer de vie, de changer de mode de vie. On en avait un petit peu marre de la région parisienne. On avait envie de se rapprocher de la mer, de la nature, et surtout de vivre dans un rythme un peu, petit peu plus apaisé et plus tranquille que le rythme de vie parisien. Donc il se trouve que mon compagnon a été recruté à Granville. Donc on est arrivé à Granville comme ça. Et donc parallèlement aux recherches d'emploi de mon compagnon, j'ai moi-même de mon côté réfléchi à un autre projet professionnel. J'avais envie de tester, d'essayer autre chose, de monter un projet un peu plus personnel et de manière plus indépendante, de sortir un peu du circuit institutionnel, on va dire. En fait, j'en ai pas trop parlé dans mon parcours, mais pendant longtemps, j'ai développé une activité de photo. Je fais beaucoup de photos depuis l'enfance. En fait, ça remonte à l'enfance. Voilà, c'est une activité qui m'accompagnait comme ça au quotidien, mais que j'avais jamais vraiment formalisé, laquelle j'avais jamais vraiment pensé de manière professionnelle. Et mon entourage, plusieurs personnes autour de moi qui voyaient mes photos que je publiais quand même régulièrement sur Internet, m'encourageaient en fait à creuser quelque chose de ce côté, voilà, à montrer mes images, à montrer mon travail. Donc j'ai réfléchi un peu dans cette direction. J'ai eu envie effectivement d'ouvrir un lieu dans lequel je pourrais exposer mon travail. Mais en plus de mon travail et de mes images, j'avais aussi envie d'ouvrir ce lieu à d'autres pratiques artistiques et plus largement aussi artisanales. Ça me permettait aussi d'ailleurs d'arriver dans un endroit où je connaissais personne, de faire des rencontres humaines en fait, de rencontrer d'autres créateurs à Granville ou dans les environs de Granville ou même au-delà. Ça a été assez limpide, j'ai fait les bonnes rencontres aussi au bon moment certainement, mais en 9 mois j'ai réussi à quand même à développer ce projet, ce qui est quand même assez court. J'ai rencontré donc une jeune femme qui en fait avait un peu les mêmes envies que moi au même moment, Isabelle, et qui en fait travaille dans la restauration de mobilier ancien, de mobilier vintage comme on dit aujourd'hui. Et en fait, on a décidé de se regrouper pour ouvrir une galerie. On a trouvé un local sur la Haute-Ville, dans le quartier de la Haute-Ville de Granville. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre sur un lieu en particulier que je trouvais superbe. Et je me suis dit tout de suite qu'il se prêterait très très bien à l'activité que je voulais y développer. Donc voilà, il se trouve qu'on a pu y développer effectivement, ouvrir notre galerie dans ce lieu, voilà, Galerie CO.
Bobine et coquillage.
Pour faire le lien avec le cinéma, puisque donc tu as fait des études de cinéma, oui. Est-ce que aujourd'hui tu te considères comme cinéphile ou cinévore, cinéphage, ouais. Quel est ton...
Alors c'est très particulier mon rapport à ça. Oui, j'ai été très très cinéphile. Disons qu'il y a plusieurs phases en fait, selon les parties dans ma vie, quoi. Quand j'étais petite fille, déjà quand j'étais enfant, on a vu avec mes parents, enfin ma maman surtout, elle nous a emmené voir énormément de films au cinéma. Moi j'étais une enfant un petit peu en plus... un petit peu rêveuse, un peu mélancolique, donc c'était une façon de m'échapper un peu de la réalité, on va dire, voilà, de la vie quotidienne, de l'école, parce que j'étais pas une enfant très très scolaire. Donc effectivement, déjà petite, on allait voir beaucoup de films. Après, effectivement, plus âgée, donc au lycée et après à étudiante, j'ai voulu donc étudier le cinéma. Donc là, j'ai eu une consommation entre guillemets du cinéma très très boulimique. J'allais voir beaucoup de films dans les festivals, à la fac évidemment, voyais beaucoup de films dans mes visionnages personnels pour mes études. Donc beaucoup beaucoup de films. Et puis après, je crois qu'après mes études, j'ai fait justement, je pense, un peu un rejet. Je suis passée par une phase de rejet où j'avais vu tellement de films et où j'étais tellement rentrée dans un visionnage trop, on va dire, trop intellectualisé, une approche plutôt trop intellectualisée du film, tout le temps dans l'idée, voilà, d'analyser les choses, de tout décrypter, que en fait je pense que j'avais perdu un petit peu de la magie et du regard un peu insouciant. De l'approche un peu insouciante plutôt que j'avais à la base quand j'étais enfant en fait du cinéma. J'avais perdu ça et ça me manquait, je pense. Donc voilà, pendant toute une période, peut-être pas si longtemps que ça, mais J'ai vu beaucoup moins de films, on va dire. Voilà. Et là, depuis quelques années, de nouveau, j'ai du plaisir en fait à revoir des films, mais avec une approche pour le coup beaucoup plus insouciante, quoi. Sans chercher absolument à analyser, mais juste avec un regard de plaisir en fait. Voilà, ça me permet de m'évader, de découvrir des belles choses, des beaux regards. Voilà, une approche beaucoup moins intellectualisée que pendant mes études.
Alors, quels seraient tes films de chevet, entre guillemets, si tu en avais ?
Alors, mes films de chevet, on va dire que les films qui me tiennent à cœur, ou alors qui vont m'accompagner, je pense, certainement toute ma vie, sont des films qui sont très liés, en fait, à l'affectif, en fait, des films qui m'ont marqué à certains moments dans ma vie, parce qu'ils ont accompagné certains moments de ma vie familiaux, par exemple. Je pense à un film comme Willow, qui est un film que j'ai beaucoup vu avec mon papa quand j'étais petite fille, avec ma sœur aussi, et qui me rappelle voilà de bons souvenirs de partage voilà de moments de cinéma comme ça avec des gens proches. Il y a aussi un film qui s'appelle Le Petit Prince Adi de Christine Pascal, qui est un film que j'ai vu enfant aussi. Et alors, ça, pour la petite histoire, c'est un peu personnel, mais en même temps, je peux en parler très librement parce que je pense que c'est assez universel. Mais mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite fille, et je pense que c'est le seul film que j'ai vu au cinéma avec mes deux parents réunis. Et du coup, c'est un film, voilà, que déjà je me souviens très très bien, alors que je pense que je devais avoir peut-être 6-7 ans. Je me souviens très bien de ce film, il m'a marqué. Je me souviens voilà du moment, de la manière dont j'ai ressenti les choses. Et voilà, c'est un film qui m'a accompagnée pendant longtemps aussi, qui fait partie des films très importants pour moi. Il y a eu aussi des films que j'ai vus avec ma grande sœur quand on était enfants, toutes les deux, comme La Féline de Tourneur ou Amadeus, voilà, qui font partie des films qui m'ont marqué quand j'étais, très jeune. Et puis un peu plus tard, quand j'ai commencé à étudier le cinéma, il y a voilà, des films qui m'ont aussi beaucoup marqué, plutôt en fait pour ce qui montrait en fait de la vie, des choses assez fortes, des visions de l'amour ou des regards sur les liens entre père et fille, des regards sur l'adolescence. Donc là, je pense par exemple à Nos Amours de Maurice Pialat, qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai vu quand je devais avoir 14-15 ans, je pense. Donc c'était vraiment au moment de l'adolescence, donc c'était pour ça aussi, j'imagine. Et puis un autre film que j'ai vu un peu plus tard, La Femme d'à côté, mais toujours au moment de l'adolescence. Donc là, c'était un regard sur l'amour passionnel entre Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Un amour très très violent, et je pense que c'était peut-être le premier film que je voyais sur la passion amoureuse, et du coup ça m'a aussi énormément marqué. Voilà, pour te donner donc des exemples de films de chevet, mais que je revois pas forcément aujourd'hui, que j'ai pu revoir peut-être encore il y a 5-6 ans, mais qui sont là, qui sont importants pour moi, qui m'ont beaucoup influencé dans ma façon de voir le cinéma, mais que je ne revois pas nécessairement aujourd'hui.
Je propose qu'on écoute un florilège des films dont tu as parlé, en tout cas les trois derniers films dont tu as parlé. On va écouter.
D'accord,
ça.
Avec plaisir.
Violette, allez, dépêche-toi, on est à la bourre. Allez.
Oh, j'ai tout barbouillé.
Tu crois que c'est comme ça que tu vas maigrir?
Je m'en fous de maigrir.
Bon, d'abord, faut que je passe au labo, ensuite on file à la maison prendre les bagages, et après je te les pose chez ta mère.
Qu'est-ce que je vais faire toute la semaine avec elle?
Ça coûte rien qu'une toute petite semaine, c'est pas long. Dis-moi, ça te plairait si Lucie venait habiter à la maison?
C'est d'orange.
Elle a une petite sœur de ton âge. Elle pourrait venir de temps en temps. Ça te plairait?
Je sais pas. Les Chinois, on sait jamais ce qu'ils pensent.
T'en as plus qu'une. Elle est partie quand l'autre? Non. Mais t'avais pas. Deux fossettes avant.
Ouais, j'en avais deux, je sais.
Et pourquoi l'autre, elle est plus là?
Je sais pas. Elle en avait marre, elle aussi.
Ouais.
Elle est partie.
Tu te rends compte, regarde, on vit avec quelqu'un tous les jours, je m'en étais même pas rendu compte. En fait, t'as pas tant faire, hein. Avec cette qui reste, t'es ratiche, comme tu dis, t'es ratiche.
Ouais.
Tu t'en sortiras, allez, va te coucher.
Une fois qu'on a bien parlé, tiens. Salut.
Salut.
Quand tu viens me voir, tu t'emmerdes à sens ou de l'heure, hein, avoue.
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... Tiens, il marche maintenant, ton poste.
Je crois avoir retenu que vous souhaitiez...
Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde.
Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... ne me quitte pas. Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien... sans amour, on n'est rien du tout.
Bon, Mathilde. Il faut que j'y aille maintenant. J'en reviendrai.
Te fatigue pas, Bernard. Tu as plus besoin de revenir. Tu peux aller les voir et leur dire mission accomplie. La folle est en train de redevenir normale.
Une nouvelle vague.
On retrouve Émilie à la galerie ICO.
Pendant le confinement, est-ce que tu as revu des films de chevet ou tu as plutôt été attirée par d'autres œuvres? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de voir?
Alors, écoute, non, j'ai pas revu de films que je connaissais déjà, que j'avais déjà vus, ou alors de films de chevet, comme tu dis. J'étais plutôt sur une démarche de... J'en ai profité, en fait, de cette période pour découvrir des films que j'avais jamais vus. On a de la chance d'avoir une médiathèque à Granville qui propose quand même une belle collection cinéma, des films rares parfois, des films dont moi-même, alors que j'ai fait des études de cinéma, je n'ai pas forcément entendu parler. Donc j'étais plutôt dans cette démarche-là de découverte. Je suis restée sur des films classiques, du cinéma américain beaucoup en fait, des films de l'âge d'or hollywoodien. Des films qui pouvaient vraiment être des films de référence aussi, mais qui à l'époque, enfin voilà, je suis passée à côté de ces films-là quand je faisais mes études. Je pensais à des films comme Gilda de Charles Vidor, par exemple, ou Sunset Boulevard de Billy Wilder. Un autre film, alors là, c'est des réalisateurs, un réalisateur par exemple dont je connaissais très peu le travail et l'œuvre, qui s'appelle Robert Siodmak. Donc j'ai vu un film qui s'appelle Piège. D'autres réalisateurs dont j'avais jamais entendu parler, comme Elliot Silverstein. Alors là, je ne connaissais pas du tout et j'ai vu un film qui s'appelle Un homme nommé Cheval, qui est un film vraiment très très beau que j'ai découvert et avec beaucoup de plaisir. Donc en fait, c'était vraiment ça la démarche, quoi, faire de la découverte et puis trouver une sorte d'échappatoire aussi à ce confinement. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, le cinéma pour moi à la base, c'était vraiment une façon de voyager dans un autre espace temps même, une façon un peu de m'évader et de sortir un peu de la réalité. Donc le cinéma pendant le confinement pour moi c'était vraiment l'idéal en fait pour justement essayer de voyager le plus possible. Voilà, donc j'ai aussi vu beaucoup de westerns, L'homme de l'Ouest d'Anthony Mann, La colline des potences de Delmer Daves, voilà, des très très beaux films.
Et alors là, on ne sait toujours pas quand vont réouvrir les salles, mais est-ce que ça te manque, le rapport à la salle de cinéma ?
Oui, bien sûr, je trouve ça super de pouvoir avoir accès au cinéma chez soi, évidemment. C'est une liberté incroyable et heureusement qu'on peut avoir accès aux films à la maison. Mais pour moi, c'est indispensable aussi de pouvoir voir des films en salle de cinéma. C'est un visionnage totalement différent. Des conditions qui sont totalement propices à ça. On est dans un cocon, on est plongé plongé, on va dire, dans le film. On est, voilà, dans le noir, dans un silence total. Rien d'autre peut nous sortir du film, en fait. Pas de sonnerie de téléphone, intempestive. Voilà, donc c'est vraiment les conditions parfaites, idéales pour vraiment apprécier un film, effectivement. Donc je suis assez impatiente de pouvoir y retourner.
Est-ce que pour terminer, tu peux nous présenter une musique de film, une musique que tu aimes ?
Alors du coup, je vais partir plutôt sur une découverte récente, parce que c'est sûr que les BO sont des choses, une partie, un aspect du cinéma qui est très important. Pour moi, une BO de film, si elle est trop présente, si elle est pas terrible, si je trouve qu'elle accompagne mal le propos, le film, ça peut carrément me gâcher le plaisir de voir un film, en fait. Ça m'est arrivé de d'arrêter un film parce que je trouvais que la musique était trop envahissante et que, en fait, elle n'était pas spécialement intéressante. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très important. Là récemment, par exemple, j'ai découvert une compositrice qui s'appelle Hildur Gudnadottir, donc une compositrice islandaise qui a composé les musiques de films de Joker, par exemple, et aussi de la série Tchernobyl, qui est une très très belle série assez poignante sur Tchernobyl. Et donc là, c'est une musique très particulière puisqu'elle est extrêmement sombre, mais dépouillée, très très épurée, mais en même temps, elle apporte une espèce d'ambiance vraiment particulière au film. J'ai l'impression que c'est presque comme un autre personnage du film, et c'est comme ça que je l'apprécie, en fait. Je pense à une autre musique de film, un film que j'ai vu il y a pas si longtemps qui s'appelle Under the Skin de Jonathan Glazer. C'est un film avec Scarlett Johansson. Donc là, en plus, c'est encore une musicienne. C'est Mika Levy qui a composé la musique de ce film. Et c'est aussi une BO très, un peu, on va dire, dans le même esprit, un peu comme ça, très dépouillée, une ambiance un peu sombre, mais très très hypnotisante, très prenante, et moi qui me reste en tête, en fait, pendant assez longtemps. Et je trouve qu'il y a un dosage parfait, en fait, entre les images, la musique, la manière dont la musique accompagne les images. Enfin, je trouve ça très très beau et très réussi.
Ça tombe bien, j'avais envie de faire un focus sur les compositrices, oui, de musique de film, parce que c'est vrai qu'on ne les met pas,
c'est vrai, beaucoup,
pas assez en avant.
Valeur, ouais, tout à fait.
On choisit laquelle, alors ?
Entre les deux ?
Oui.
Allez, la première. On va dire Hildur, l'islandaise.
Voilà. Très bien, merci beaucoup, Émilie.
Merci à toi.
Et puis, bon vent à ICO.
Merci beaucoup.
Et bon vent à toi.
Merci, merci, toi aussi.
À
toi
aussi. À bientôt.
À bientôt.
Nouvelle vague.
Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit.
La Nouveautech.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Café Cinéma Virtuel, troisième film, un film italien d'Antonio Pietrangeli. Je la connaissais bien, un film de 1965 que vous pouvez visionner sur la médiathèque numérique. Il est disponible sur le très beau catalogue de la médiathèque numérique. Alors quelques mots d'abord pour présenter Antonio Pietrangeli, pas forcément le nom le plus familier du cinéma italien de cette époque. C'est un réalisateur qui a commencé comme critique de cinéma avant ensuite d'écrire des scénarios. Il a notamment collaboré à l'écriture du scénario du célèbre film de Luchino Visconti Ossessione, Nuit Blanche en version française, qui est un des films phares du néoréalisme. Et puis, à partir des années 50, il a commencé à réaliser ses propres films. Et ce qui est d'original dans ses films, c'est qu'il évoque très souvent la condition féminine dans la société italienne, dans des films qui oscillent entre la comédie et le drame, qui louvoient comme ça tout le temps entre différentes tonalités. Donc je la connaissais bien, c'est tout à fait ça, c'est l'histoire d'une jeune et jolie provinciale, Adriana, qui désire devenir actrice pour Cinecittà, le Hollywood italien, donc qui s'installe à Rome et découvre un petit peu les attraits et les pièges de la civilisation urbaine. Alors on la voit dans différents métiers, elle est d'abord dans un salon de coiffure, puis elle est ouvreuse de cinéma. Et puis on la voit également poser pour des photos, on la voit avec différents personnages en fait. Il faut savoir que le montage du film est assez singulier, avec des séquences très courtes et entrecoupées de souvenirs, souvent des souvenirs d'enfance d'Adriana. Donc ça fait comme ça, ça compose le portrait en plusieurs éléments, en plusieurs fragments fugaces de cette jeune femme qui réalise petit à petit un petit peu le vide de son existence et le vide aussi de ses ambitions de devenir une star. C'est un sujet assez dur, hein, comme je viens de vous le dire, qui est traité de façon un petit peu légère, puisqu'on suit les aventures et les mésaventures de cette jeune femme, qui est considérée par la plupart des hommes qui l'entourent plus comme un objet d'érotisation que comme quelqu'un qui cherche à trouver à sa place dans la société. Donc c'est là que vraiment le discours sur la condition féminine de Pietrangeli prend tout son sens et devient vraiment pertinent et critique, et presque on pourrait dire pré-féministe. C'est vraiment une illustration de la condition de la femme dans cette société italienne du début des années 60, qui va trouver en fait une issue dramatique, pour pas dire... pour pas utiliser un mot plus fort dans le film, donc évidemment je vais pas l'évoquer ici, vous le découvrirez en voyant ce film. Le rôle principal échoit à la jeune actrice Stefania Sandrelli. C'était un de ses premiers rôles. Alors elle est très très bien dans ce film, magnifique actrice. On la voit entourée de d'autres noms assez connus du cinéma italien de l'époque, comme Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, ou Mario Adorf, et également Jean-Claude Brialy, dans un rôle de des nombreux hommes qui tournent autour de cette jeune femme et qui la manipulent, en fait, hein, qui se servent d'elle. Et voilà, c'est un film à découvrir, un réalisateur à découvrir aussi. Par parenthèse, il y a d'autres films qu'il a réalisés, hein, qui sont disponibles sur la médiathèque numérique, comme par exemple Adoua et ses compagnes avec Simone Signoret, un autre très beau film. Voilà. Merci à tous.
On termine l'émission avec un hommage à un acteur qui a commencé sa carrière avec la nouvelle vague, Michel Piccoli. Dans Les Demoiselles de Rochefort, il joue Monsieur Dame, ce qui lui vaut de perdre l'amour de sa vie.
Ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais lorsque ma fiancée m'a laissé, il y a 10 ans, j'ai éprouvé le même petit agacement du côté du cœur.
Votre fiancée?
C'est pour elle, voyez-vous, que j'ai décidé de quitter Paris. Il y a un mois, je me suis installé ici afin de retrouver quelques souvenirs.
Pourquoi? Elle habite Rochefort?
Non, non, non. Elle vit au Mexique. Mais nous nous sommes connus ici. Oh, c'est une histoire peu commune pour un homme comme moi, en somme, bien ordinaire.
Ma fiancée trouvait mon nom très ridicule. Il la choquait, je crois, alors sans préambule. Un soir elle est partie, sans un mot, sans adieu. Mes yeux depuis 10 ans n'ont plus croisé ses yeux. Elle m'avait appris dans le plus doux moment qu'elle attendait de moi l'heureux événement qui enorgueillit l'homme et anoblit la femme. Mais elle refusait le nom de Madame Dame. Pourtant je lui plaisais, je l'appelais ma muse. Mais je ne savais pas, le poète s'amuse, qu'un nom comme le mien pût l'agacer autant. Je ne l'ai pas compris, hélas, au bon moment. J'étais un beau jeune homme, elle une demoiselle, qui sans le faire exprès avait eu des jumelles. Que je n'ai jamais vue, elle vivait en pension et ne rentrait jamais le soir à la maison. Quelques années plus tard, par un ami commun, j'ai su qu'un étranger sollicitait sa main. Ils partirent tous deux quelque part au Mexique pour vivre leur amour au bord du Pacifique. À présent je suis seul comme un amant déçu. J'ai voulu voir la ville où je l'avais connue. Je m'y suis installé et depuis j'y demeure. Avec mes souvenirs, je joue à cache-cœur.
Merci d'avoir écouté Nouvelle Vague. Merci à tous ceux qui ont participé à ce numéro. Merci à Flora, Yann, Anne, Marin, Élise, Victor, Antoine, Richard, Émilie et Mathieu. Dans le prochain numéro, on vous parlera d'initiatives locales autour du cinéma. Vous avez peut-être entendu parler d'un festival qui est en train de se monter sur Granville. Mais je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, de belles vagues à tous.
C'était Nouvelle Vague sur le bouquet Grandvillais.